Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette et surtout bonjour Alain.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Quand même, il faut avoir les idées larges, hein. Il ne faut pas s'intéresser que au Yiddish oriental, mais aussi
au Yiddish occidental, comme on l'appelle maintenant élégamment.
On peut dire que c'est une variante.
Voilà, c'est une variante. Est-ce une variante? Est-ce une autre langue?
C'est la grande question.
C'est exactement la grande question.
C'est peut-être l'ancêtre même du Yiddish oriental, hein, puisque on dit que le Yiddish, le judéo, oui, est né en Alsace, est né le long du Rhin, donc c'est devenu le judéo-alsacien, et puis ensuite il a émigré vers l'Est, et là il est devenu le Yiddish oriental.
Il est peut-être antérieur. Hein, peut-être.
C'est vrai qu'on a trouvé des textes en judéo-alsacien, en Allemagne, notamment à Mayence, c'était les fameux Purimspiel, qui étaient rédigés en judéo-alsacien, mais bon, ça c'était vraiment tout au début, et ensuite ça a complètement évolué différemment.
Alors est-ce que ces textes-là sont écrits en caractère hébraïque?
Écoutez ça.
Oui. Normalement, les Juifs écrivaient en caractère hébraïque, quelle que soit la langue.
À cette époque-là, c'était plutôt en caractère hébraïque.
Oui, parce qu'ils ne dominaient pas les autres caractères.
Mais ensuite, à partir du 18e, 19e, c'était beaucoup, beaucoup moins écrit en caractère hébraïque. Ça existait encore. Par exemple, comme je viens de Saverne. À Saverne, il existait depuis 1791 un marché aux bestiaux, les fameux Paimesendler de la campagne alsacienne. Ouais. Et on a retrouvé dans les archives de la ville les registres, puisqu'il y avait toujours des registres pour les transactions concernant les bestiaux. Et dans ces registres, on a retrouvé certains Paimesendler juifs qui signaient et qui écrivaient en caractère hébraïque.
Mais les transactions elles-mêmes sont
en caractère hébraïque.
Aussi, les transactions elles-mêmes
sont vendues. Oui, très, très sommaires. Tant de bêtes, à tel prix.
C'est précieux, ce genre de
documents. C'était, si je me rappelle bien, c'était en 1861, quelque chose comme ça.
Voilà, donc nous allons parler du livre d'Alain Kahn, 350 expressions judéo-alsaciennes, traduites et commentées. Alors peut-être que vous pouvez nous lire le titre en alsacien.
En
judéo-alsacien.
Le titre du livre, c'est... Enfin, l'expression qui est inscrite sur la couverture, c'est « Er führt sie noch nicht unter die Rupe ».
Voilà, donc il l'a
conduit. C'est par rapport à un dessin d'Alphonse Lévy, justement, qui avait fait ce dessin qui se trouve
sur la couverture
et puis que Alphonse Lévy avait intitulé le pshaw, vous savez, le pshaw,
la rencontre
en vue de mariage, et il avait mis comme sous-titre Svelnenet. Et donc ça veut dire que bon, c'était pour montrer comment les fameux Schatzen dans la campagne alsacienne essayaient à tout prix de marier les jeunes gens.
Oui, alors là on va pas se lancer dans les blagues sur les Schatzen, parce on en a pour trois.
Schatzen,
oui, en hébreu c'est Schatran.
Schatran, Schatran. Mais il y a un commentaire d'un dessin de Alphonse Lévy, d'après mes souvenirs, où il y a écrit Er will sie nicht.
Oui.
Qu'on peut comprendre de deux manières. Erville, Zinit.
Ah oui,
ou
d'accord.
Erville Zinit, ne la veut pas.
Ah, oui.
Ou elle, lui veut, elle ne veut pas. Parce qu'il n'y a pas de virgule. Erville Zinit.
Ah oui, d'accord.
C'est intéressant.
Oui. Oui, parce que sur les dessins qu'on voit actuellement, il y a marqué Svelnenet. On dit, parce que d'après l'image, c'est la jeune fille qui se détourne.
C'est ça. Ah, parce que le S, il sert pour les jeunes filles. Das Mädchen.
Oui, mais l'inverse est possible aussi.
Possible.
En tout cas, le titre veut dire « Il ne la conduit pas encore sous la roupa ».
C'est pas encore fait.
Oui, le mariage n'est pas prêt de se faire. Voilà.
C'est pas pour demain.
Donc, aux éditions de la Nuée Bleue, qui publient pas mal de choses concernant le judéo-alsacien. Ils ont republié le livre de Simon Debré sur l'humour juif et l'humour judéo-alsacien, pardon, et puis également le livre de Frédéric Raphaël, et avec des illustrations de Ange Mercury qui reprend
qui a stylisé les dessins d'Alphonse.
Voilà, et c'est très coloré, c'est très vivant.
Oui, ça donne une couverture assez surprenante.
Oui, mais ça fait pas le livre super sérieux.
Oui.
Hein, ça fait un livre, quand même un livre de blagues.
Oui, c'était d'ailleurs mon but. Hein, je voulais vraiment essayer de démocratiser le judéo-alsacien.
Voilà, vulgariser.
Vulgariser, oui.
Alors, c'est vrai que c'est un livre très agréable à lire. C'est le genre de livre qu'on peut ouvrir comme ça au hasard et puis lire. Et puis, il y a quand même des rubriques qui sont... C'est rangé, mais on peut aussi regarder et voir effectivement les différences avec, en particulier, le yiddish oriental. Je vais juste dire deux, trois choses à ce propos-là. Il y a pas mal de différences de prononciation. Hein. Par exemple, le « u ». Le son U qui existe bien sûr en français et qui existe en allemand, mais qui n'existe pas en yiddish oriental. On s'est beaucoup moqué des yiddishophones de Pologne qui arrivaient, qui disaient « riz des rosiers » ou « roux des rosiers » parce qu'ils n'arrivent pas à dire « rue des rosiers ». Voilà. Alors un Alsacien, par contre un juif alsacien, lui, peut très bien dire « U ». Voilà. Et puis alors il y a aussi le B devient souvent des V.
Oui.
Les diphtongations ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas, par exemple, le « oi » hein, qui est très fréquent en yiddish oriental.
Non, c'est vrai, ça, on ne le trouve pas en alsacien.
Il y a « au » ou
sauf,
alors...
Sauf dans certaines keynotes, les keynotes à Tishabéav, où il y a des « oi », mais c'est très rare.
C'est très rare, oui, c'est un son qui n'existe pas. Ah ouais. Et alors, il y a quelques mots qui existent en yiddish alsacien et pas du tout en yiddish oriental. Le célèbre « umbeshri », hein, qu'on traduit, si on peut dire, qu'on transpose par « kainain hore », sans mauvais œil, mais « umbeshri » est tout à fait...
« On est zu schreien », c'est ça.
Voilà, sans trop crier.
Sans vouloir le crier.
Ah oui, quand c'est une compliment,
oui,
en fait, hein,
oui.
Que ça se sache pas trop.
Sans vouloir se vanter, dans le sens.
Et puis « berches » aussi, hein, donc ça c'est les pains de Shabbat, qu'on appelle « chalot ». « Chalot » en hébreu, « chales » en yiddish oriental, mais « berches », alors ça je ne sais pas.
« Berches », c'est une déformation de « beracha »,« bror ».
Ah, « bror », voilà,
bénédiction. C'est les pains sur lesquels on fait la bénédiction.
Ah, d'accord, vous voyez, je connaissais le mot, mais je ne savais pas. Et alors il y a le mot « ed » aussi, qui veut dire le papa.
Hein. Oui, mais ça c'est... ça, c'est... un mot qui a été repris dans le judéo-alsacien et qui ressort du vieil allemand.
Oui, et qui n'existe pas du tout.
Ada en vieil allemand, c'est le père.
Alors ça s'est tout à fait perdu dans le yiddish oriental, puisqu'on dit Vater, donc oui. De l'allemand, mais on dit surtout Tat. Un Tat, c'est un mot slave.
Hein. Oui, mais voilà. Edes, ça vient de Ada, c'est une vieille formulation allemande.
Oui, c'est intéressant. Voilà, donc peut-être vous demandez tout simplement...
Il y a aussi, on parle aussi de Harl, c'est aussi le père.
Oui,
Harl, ça vient de Herrlein.
Ouais. C'est Dieu, non? C'est
non, Herrlein, le monsieur.
Ah bon?
Oui, en allemand, Herrlein, monsieur en allemand.
Et ça donne Harl
en judéo.
Et il y a aussi Harriet, hein, qui veut dire...
Ça c'est Dieu.
Ça c'est Dieu.
Mais ça vient aussi de Herr.
Oui, Herrgott.
Herrgott.
Ah, Herrgott, Harriet. Harriet.
Voilà, Harriet.
Oui, ça aussi c'est tout à fait
Harriet,
particulier.
Harriet, c'est le dieu des juifs, si vous voulez. Yet,
et Herle, c'est comme en yiddish oriental, Reb. Mais ça n'a aucun rapport.
Oui.
Comme pour dire monsieur, on dit Reb.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui, ça en judéo-alsacien, on le réserve plutôt Reb, le rabbin.
Oui, alors que non, c'est pas rabbin en judéo-alsacien.
Non, justement pas, c'est simplement monsieur, vraiment, quand on dit, Reb.
Reb Yohan, voilà, c'est bon.
Par exemple.
Alain, voilà. Et alors aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le G devient souvent un I, un Y. Hein. Veg devient veille, par exemple. Hein, donc,
on a quelquefois des difficultés. Quand on écrit les yet ou les yid, il y en a qui écrivent avec un J ou avec un Y. C'est très variable.
Oui, et ça se voit par exemple dans, dans le mot da'aga en hébreu.
Oui,
hein.
Da'ayes, oui.
Voilà, qui donne da'ayes en judéo-alsacien, qui donne da'aige en yiddish oriental. Donc on a l'impression que c'est des mots tout à fait différents, alors qu'en fait c'est le même mot.
C'est le même mot. Da'aga, hein, le souci.
Ouais. Ouais. Et quand on dit... alors, en yiddish oriental, mein daige, c'est-à-dire mon souci, c'est-à-dire je m'en fiche. Et en judéo-alsacien,
mein daige.
Mein
daige,
voilà.
Mais ça veut dire la même chose.
Oui, je m'en fiche. Et puis on dit aussi daiges pour ungelegte Eier.
Ah, ça, c'est quoi, des soucis?
Des soucis pour des œufs qui ne sont pas encore pondus.
Oui, ah, ça
veut dire des soucis pour rien du tout.
Oui.
Ah ouais, ça, je crois que c'est les cheveux en quatre, voilà, pour des trucs qui ne valent pas la peine.
Ouais. Voilà, donc on a déjà pas mal discuté. Donc votre souci, c'est vraiment de rapprocher finalement le judéo-alsacien de lecteurs français.
Oui, c'était surtout une démarche liée à ce que représente le judéo-alsacien. Vous voyez, le judéo-alsacien, c'est quand même le reflet d'un certain état d'esprit qui était très répandu dans la campagne alsacienne. Et qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes qui sont issues de ces milieux ruraux et qui ensuite sont montées en ville, comme on dit, mais qui ont gardé quand même beaucoup de ces expressions en eux-mêmes, et donc c'est une façon de parler, si vous voulez, qui mérite d'être conservée, parce que justement ça a donné tout cet état d'esprit. Par exemple, pour tous les minagim, pour toutes les coutumes judéo-alsaciennes, on trouve beaucoup d'expressions qui concernent les minagim qui sont spécifiques aux juifs d'Alsace. Et donc c'est par ce langage que les choses ont été transmises de génération en génération. Et c'est un peu dans ce sens-là que ce travail a été fait.
Oui, et qu'il est précieux. Mais vous-même, vous l'avez entendu, enfant ?
Alors, dans ma famille, comme j'habitais Saverne, mon père et sa famille, ses parents, ses grands-parents connaissaient très bien le judéo-alsacien. Mmh. Ils ne parlaient pratiquement que de cette façon-là. Et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à apprendre certaines expressions, mais comme on le sait, on ne le parlait pas à la maison, puisqu'il était bon ton de parler français. Mmh. Mais à l'extérieur, et même avec les goyim, il y a beaucoup de goyim dans les villages qui connaissaient beaucoup de mots d'origine judéo-alsacienne. J'ai vu d'ailleurs dans des dictionnaires alsaciens-français, ils mettent vraiment des mots d'origine juive, d'origine hébraïque, qui font partie du vocabulaire alsacien.
Oui, c'est Raymond Madsen qui a fait toute une recherche, et moi j'avais repris sa liste, il a fait toute une liste, donc j'avais même fait une conférence à ce sujet, les hébraïsmes dans l'alsacien. Mais quand vous demandez à des gens actuellement, il y en a énormément qui se sont perdus. Hein,
c'est un sujet très intéressant, parce que par exemple, on trouve beaucoup d'hébraïsmes.
Oui, alors c'est vrai qu'ils disent toujours qu'il y a plein d'hébraïsmes dans leur alsacien et qu'ils en sont tout fiers. Mais quand on leur dit « Ah oui, alors lesquels ?» On tombe en fait sur Meshug et après c'est
Il y a les classiques, le canuf, le voleur.
Baïs, ça y est, encore.
Voilà, donc comme on va être à Pourim, on va peut-être prendre un petit peu le texte de Pourim. Alors nous n'allons pas présenter Pourim à nos auditeurs, mais peut-être prendre tout de suite les expressions. Donc voilà, si vous voulez bien lire la première, tout simplement.
Oui, il y a une partie donc qui est consacrée à Pourim, Purim en judéo-alsacien.
Purim, oui, voilà, Purim, avec ce fameux U, voilà.
Voilà, le fameux U.
Purim.
Alors, la première expression que j'avais mise, c'est Tessech Gans Megille. On sait qu'à Pourim, on lit la Megillat d'Esther, qui raconte toute l'histoire justement de Pourim. Et puis, on a utilisé en judéo-alsacien ce mot pour montrer du doigt les gens qui parlent trop longtemps. Quand on dit c'est que c'est un texte ou bien c'est un discours qui paraît qui paraît trop long.
Qui est trop long, oui.
Il y a une autre expression d'ailleurs, pour parler des discours des rabbins, notamment, c'est Franz Semmelil, on dit aussi « De rêve der ever alles rette, aber nicht ever 10 minutes ».
Ah oui, parce que le « ever » il marche pour les... «
Ever », c'est au sujet d'eux et au-delà. Il a le droit de parler sur tout ce qu'il veut, mais pas au-delà de 10 minutes.
Ouais. Mais moi, j'ai entendu dire, pour quelqu'un qui parle trop longtemps, il a fait toute une paracha.
Oui, ça,
on le dit aussi.
Oui, puisque dans la Torah, il y a certaines parachas qui sont très longues. Ouais. Mais ça s'adapte très bien à la Megillah, qui est longue.
Ouais.
Et donc, en général, on lit la Megillah le jour du jeûne d'Esther. Et donc, les gens qui ont jeûné, ils sont pressés de rentrer, puisqu'ils ont faim.
Mais d'ailleurs, c'est une traduction de la lire le plus vite possible.
Oui, c'est ça.
Il faut lire le plus vite possible.
Et bien la lire.
Et pourtant, bien, oui. Bien.
Voilà. Donc ça, c'est une expression qui existe tout à fait en yiddish oriental, « Dossi zakan se megile ».
Ça existe aussi.
Ah, tout à fait, la même.
Oui,
par contre, pas la suivante.
Oui,
c'est plutôt un jeu de mots.
C'est un jeu de mots. « Amtanes Esther ».
Amtanes
Esther, c'est le jeûne d'Esther. Esther, c'est la reine Esther. Hein. C'est le jeûne d'Esther. Mais en alsacien, Esther, ça veut aussi dire il mange. Oui. Donc c'est pour se moquer des gens qui ne jeûnent pas. Donc,
Amtanes Esther.
Voilà. Et là, vous avez un petit poème. Hein,
oui,
enfin,
que j'ai trouvé dans un texte.
Oui, c'est intéressant.
Et donc, c'est un poème qui met en valeur ce jeu de mots.
Voilà, donc c'est en fait un mari qui dit à sa femme que tu n'as pas besoin de te lire en français.
Amtanes Esther, ça veut dire le jour du jeûne, il mange.
Voilà,
il mange.
Il se lève.
Donc, c'est toute une série de jeux de mots à ce sujet.
Oui, alors ça, c'est vraiment propre au judéo-alsacien. Il n'y en a pas tellement en yiddish oriental. Alors peut-être vous pouvez nous lire la petite comptine, là, sur le Pourim, sur les beignets de Pourim.
Elle est très connue. « Gut Purim, ich liebe leid, wissen er ach, was der Purim bedeit. Der Purim bedeit kischlich esse und der Homen nicht vergesse. » Ça veut dire bon Pourim, vous les braves gens, « liebe leid hein, », savez-vous seulement ce que Purim signifie, was der Purim bedeit. Purim bedeit. Purim signifie kischlich esse, manger des beignets, les fameux Purim kischlich, und der Homen nicht vergessen. Sans oublier le Homen. Ça, c'est la grande tradition judéo-alsacienne.
Judéo-alsacienne, tout à fait.
Le Homen.
Ça, oui, alors pourquoi c'est, Homen, oui.
Le Homen, c'est une déformation de Haman, le méchant Haman. Et donc. On a l'habitude de manger du homen, c'est de la viande fumée, parce que c'est de la viande qu'on pend dans la cheminée.
Oui, c'est ça. Oui.
Comme on a pendu Haman.
Ah. Oui, j'ai toujours cherché s'il y avait un jeu de mots, que viande fumée, ça se disait homen, mais pas du tout. C'est simplement que la viande fumée est pendue comme Haman était pendu.
Mais on dit, pour viande fumée, on dit homen.
Oui, on dit du homen. Du homen.
Homen, oui, oui.
En yiddish, il y a homen taschen. Mais c'est pas...
Oui, c'est
ça, c'est des gâteaux, oui. Ça, alors, effectivement, donc en fait, en Alsace, on fait des beignets.
On fait les Purim kischlich.
Ouais. Ouais.
C'est les Purim kischlich.
Ouais,
c'est pour montrer qu'il faut faire ravaler son orgueil à Haman, parce que les beignets, ils gonflent. Et comme l'orgueil d'Aman a gonflé jusqu'à ce qu'ils disparaissent, comme vont disparaître les Purim Kishlish.
De notre ventre.
Ah, ben voilà, mais ça, je ne connaissais pas du tout.
Super intéressant.
Non, c'est vrai que, bon, d'habitude, on pense plutôt à ce qu'on appelle maintenant les oreilles d'Aman,
oui,
mais qui, en fait, sont des chaussons.
Oui.
Hein, en yiddish oriental, c'est Homen Taschen, c'est-à-dire des chaussons, des poches d'Aman. Mais ça, on ne le fait pas en Alsace. Oui, c'est intéressant. Alors, on va continuer avec notre Pourim, donc numéro 69.
Numéro 69, c'est donc... ah oui, ça, c'est la tradition du Purim Keshel, au singulier. Purim Keshel, Veshkorp, Fol, mit Purim Kishlich. La tradition, vraiment, on consacrait pratiquement toute la journée du jeûne d'Esther. Moi, je me rappelle encore ma grand-mère, à Saverne.
À faire des gâteaux.
Elle faisait toute la journée des purumplichlich. Et on les mettait dans un wäschkorb, dans un panier à linge qui était rempli de ces beignets parce que tout le monde en raffolait. Et puis c'était la tradition, on en distribuait. Les voisins venaient, on en envoyait.
Pour les Michel Armanot.
Ça faisait partie des échanges qu'on faisait. Et puis, tout le monde était fier de pouvoir présenter un panier plein de ces beignets.
Mmh. Mais c'était pour les Michel Armanot, c'était que des beignets ou c'était différentes choses?
C'était un plus.
Alors, continuons. Donc, on est de nouveau dans le Homen, numéro 70.
Oui, là, ça c'est Homen für die Purim Süde Mösmeron. Vous savez, c'est la Seudat de Purim.
Oui, la Seudat, oui.
De Purim qu'on fait avant la tombée de la nuit. Mm. Et le plat traditionnel, c'est justement un repas de Purim sans le Homen, sans cette viande fumée. C'est pas un vrai repas de Purim.
Ah, absolument. Alors après, il y en a un très amusant.
Oui, ça c'est. c'est plus récent. Weil der Homen Bambelmus.
Alors,
dans certaines régions, on servait à la fin du repas des pamplemousses.
Oui, c'est relativement récent, alors, parce que jusqu'à ce que les pamplemousses arrivent, oui, c'est ce que vous dites, ce genre d'agrumes n'était pas très accessible.
Bambel, ça vient de Baumeln. En allemand qui dit quand on est pendu
on se balance
au bout de la corde.
Elle est très amusante, ça, vraiment.
Par rapport au mot pamplemousse, ça fait rappeler en alsacien pample, pendiller, gigoter, vous voyez.
Au bout de...
Se balancer.
C'est un minage, disons, mais un minage, comme on dit, un minage qui n'a pas beaucoup de sens.
Oui, mais c'est amusant qu'on invente un peu des nouveaux minagim. Alors, le prochain, 60 août.
Il est aussi connu, Skansjor Sheker und Ampurum Nishter. Ça veut dire toute l'année ivre. Et à jeun à Purim. Ça veut dire Shikor, c'est ivre en hébreu, et Nishter, c'est Nishtern en allemand, à jeun.
Sobre.
Donc c'est-à-dire qu'en général, lors du repas de Purim, c'est un des seuls moments où on a le droit pratiquement de se saouler, si vous voulez, ou de boire plus qu'à l'ordinaire.
Ouais.
Et là, l'expression dit le contraire. Ça veut dire que. Elle désigne quelqu'un qui vit à contre-temps ou qui fait le contraire de ce qu'on attend.
Mm-hmm. Voilà, ça existe tout à fait en yiddish oriental, « Das ganze Jahr Shikar und am Purim Nichter ». Et c'est même en exergue d'une nouvelle de Shalom Aleichem où il déplore la perte justement des coutumes de Pourim, et il dit qu'il est triste, alors qu'à Pourim on doit normalement se réjouir. Lui là, ce jour-là, il est triste quand il écrit sa petite nouvelle sur la perte des coutumes.
On voit que justement il y a des similitudes.
Tout à fait, oui, absolument, voilà. Alors, on continue. Alors, encore une expression qui n'existe pas du tout en yiddish oriental.
Ertut dim Gile Berchte. Berchte, c'est de l'allemand Bürsten, procès. Il brosse la Megillah, ça veut dire s'en occupe tellement qu'il la soigne exagérément et qu'il n'arrête pas de vérifier que cette Megillah est en bon état. Et on disait ça pour montrer du doigt une personne qui fait preuve de trop de rigorisme.
Trop
de zèle dans sa pratique religieuse.
Ça peut
aussi s'appliquer à d'autres domaines que la pratique religieuse. Quelqu'un qui va trop loin, si vous voulez.
Oui, comme ça, très obsessionnel, quoi, on peut dire. Voilà.
Une ménagère qui fait trop bien souper sa repoute, par exemple.
Voilà, mais écoutez, on arrive déjà à la fin de notre émission. Alors, je vais annoncer la dédicace, mais je crains que ça soit un peu tard parce que notre émission va passer après. Donc, le dimanche 20 mars, vous serez à l'INSRA, la librairie du Cédra, de 10h à midi, pour dédicacer ces livres. Et puis, bien sûr, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies d'Alsace. Donc, je rappelle. 350 expressions judéo-alsaciennes traduites et commentées d'Alain Kahn. à la Nuée bleue, vraiment un livre qu'on peut recommander à tout le monde, même au goy, même au séparade. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.
Merci Alain.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Shalom
à la crème. Merci Lucas. À la semaine prochaine.
Le yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.